Ce soir, j'ai choisi comme thème l'amour de Dieu, le vrai. Et je sais que Pasteur Tony a donné un cours où il ne pouvait pas s'arrêter de parler de ce thème. Et il a fait tout le semestre, finalement, avec le thème de l'amour, en présentant différents types d'amour. Mais moi, je veux parler que de l'amour de Dieu. D'abord, je dirais que l'amour de Dieu est éternel. Il y a divers versets. Là, il y a un retour. Là.
Ouais, je sais, mais j'ai pas le choix.
D'accord. Il y a divers versets qui prouvent cela. Mais comme Dieu, nous savons que Dieu est éternel, l'amour aussi est éternel. Et 1 Corinthiens 13, 8 dit « L'amour ne périt jamais ». Avec le mot « jamais », on peut déduire que ça veut dire qu'il est éternel, l'amour. Or, y a-t-il des prophéties ? Elles auront leur fin. Y a-t-il des langues ? Elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance ? Elle aura sa fin. Or maintenant, ces trois choses demeurent, au verset 13, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et 1 Jean 4, 8, et après je lirai le verset 16, mais c'est surtout dans ce verset que la phrase vient que Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, répété donc dans le verset 16. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et vous savez, on va parler le verset après, on va donner le verset après, mais en ce qui concerne le châtiment de la part de Dieu, c'est un bon signe d'un amour paternel. Personne, en fait, n'apprécie le châtiment. C'est pour ça que on pense certainement que le châtiment, c'est quelque chose de mauvais. Et c'est quand même une disqualification des bienfaits du châtiment fait dans l'amour. Et on peut dire que qui aime châtie. Le but du châtiment, c'est ramener sur le droit chemin, c'est de faire grandir, c'est de faire comprendre, c'est d'améliorer, c'est d'éduquer. Tout châtiment devrait être fait dans la perspective d'amour de l'autre. Hébreux 12, 6 et 7. Seigneur, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et verset 10, nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Jusqu'ici, ça va? D'accord. Dieu a décidé d'aimer l'être humain, envers et contre tout. Si vous pensez au début de la Bible, ce qu'il a fait dire à Moïse, c'est que Il nous a créés à son image, c'est pas rien. Je me rappelle une fois, il y avait un culte entre les églises évangéliques et ils avaient invité un missionnaire indien. Et lui, il disait, il comparait la vie des vaches en Suisse à certaines personnes en Inde. Et puis il racontait qu'il avait donné une Bible à un Indien aussi comme lui, qui avait un certain âge, et puis il l'a revu deux ou trois jours après, et puis le missionnaire lui demande « Est-ce que tu as commencé à lire le livre ?» Il a dit « C'est magnifique, c'est un merveilleux livre !» C'est marqué qu'on est fait à l'image de Dieu. Ça veut tout dire pour un Indien. Un citoyen d'Inde, parce qu'un Indien, pour moi, je pense souvent aux États-Unis aussi. Les tribus d'Indiens. Mais là, c'est pour juste dire, c'est pas rien d'être à l'image de Dieu. Et quand Jésus donne dans, je ne sais plus dans quel chapitre, si c'est Matthieu, c'est possible, peu importe, il donne plusieurs paraboles parlant de rechercher les choses perdues ou de ramener les personnes perdues. Et en quelque sorte, c'est un signe d'amplifier la valeur de son amour, de l'amour de celui qui cherche. Et c'est l'effort de chercher qui est souligné. Ce n'est pas la valeur de ce qu'on va retrouver, en fait. Et cet effort de recherche, il est motivé par l'amour de Dieu pour les âmes perdues. Et pour chaque chose retrouvée, il y a réjouissance. On est content d'avoir retrouvé. Dans toutes les paraboles, il y a ça, ça se termine comme ça. Et Luc 19, 10 dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et en Matthieu 16, 26, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Ce qui veut dire la valeur de l'âme trouvée dépasse la valeur de ce que nous avons dans nos conceptions. La valeur du monde est inférieure à la valeur d'une âme pour Dieu. Et ça, c'est un de mes versets favoris dans le proverbe de la sagesse, le 8. Le 17, « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me recherchent me trouveront. » Trouver Jésus, quelle valeur, c'est immense ça. Merci Seigneur que tu aies permis ça. La mort de Dieu va jusqu'à donner sa vie pour nous, qui sommes ainsi devenus ses amis. Proverbe 17, 17, la généralité qui dit sur ce que c'est un ami. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. J'ai un frère qui est ami de Jésus, qui connaît par cœur ce verset. Voilà. Et Jésus, il nous donne un commandement à nous tous, un commandement que nous sommes seulement capables de suivre spirituellement. Car nous devons croire que nous sommes morts spirituellement. comme Jésus, lui, il aimait et disait qu'on est ses amis, nous sommes incapables, en tant qu'êtres humains, charnels, dans la chair, nous ne pouvons pas atteindre ce standard-là. Et il a donné ce commandement-là que je vous ai dit, qu'on peut le suivre seulement spirituellement. C'est ici, en Jean 15, 12 jusqu'à 14. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne crois pas que si je mourais pour quelqu'un que j'aime énormément, que ça n'aurait jamais la même valeur. Si je mourais volontairement pour quelqu'un, ce n'est pas possible en tant qu'être humain. Il n'y avait que Dieu qui pouvait faire ça en Jésus. Et le fruit de l'esprit. Vous voyez à quelle place est mentionné l'amour en premier, comme Dieu est premier. Et en ayant ce fruit de l'esprit, nous avons Dieu en nous et son premier motif de la création est l'amour. Et comme j'ai déjà dit, après avoir retrouvé quelqu'un ou quelque chose dans les paraboles, il y a réjouissance. Et comme par hasard, le second dans le fruit de l'esprit, c'est la joie. C'est amour, joie, paix, etc. Donc il y avait sûrement une volonté de présenter ça. Et je me souviens, et j'ai cherché après, avoir lu un verset avec une phrase contenant amour et mort. Et finalement, en cantique des cantiques, verset 8, alors ce qu'il faut dire, c'est j'ai une Bible semeur un peu amplifiée, où ils mettent des titres sur qui parle. Et là, en question, dans ce passage-là, c'est le cœur qui chante. Donc ce verset, il est un peu prosaïque. « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. » Cantique des Cantiques 8, 6. « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. » D'abord, la question du sceau, c'était connu comme une marque de propriété. Donc, le cœur, il interpelle. En fait, c'est Jésus qu'on interpelle. Mets la marque de que je suis ta propriété sur ton cœur et sur ton bras. Voilà. Et je continue sur ce thème de ce verset. Pour jalousie, il y a certaines versions qui utilisent passion. Mais jalousie me fait penser que Dieu nous aime autant qu'il en devient jaloux. Et son amour est passionnel. Et par ailleurs, nous savons de quoi on parle quand on dit la passion du Christ. C'est là où il nous a aimés jusqu'au bout. Voilà. Et pour dire que l'amour est fort comme la mort, ça j'ai vu dans les commentaires, l'auteur voulait dire que l'amour de Dieu est irrésistible, comme l'est d'ailleurs la mort sur notre existence. Nous ne pouvons pas résister à la mort. Elle viendra, ça c'est sûr et certain, un jour. La mort de notre être actuel, né bio, n'est-ce pas ? 2 Corinthiens 5, 14, ça me fait penser à l'irrestibilité de l'amour, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et par rapport à la jalousie, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant aussi dans l'Ancien Testament. Exode 34, versets 12 à 14. Là, Moïse a transmis de la part de Dieu au peuple. Il y est dit: garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point, ça c'est au verset 14, devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Et le mot jaloux est utilisé, ce mot précisément est utilisé que pour Dieu. Ce n'est pas dans d'autres cas. Il n'y a que cette version de jaloux est utilisée que pour Dieu. Il est marqué une fois, paraît-il, mais il est déjà deux fois dans le même verset. Son amour pour nous est tellement fort qu'il est jaloux de tout autre dieu ou idole ou relation spirituelle que nous pourrions avoir à sa place. Et je répète aussi que la jalousie de Dieu est une amplification de son amour. Et retenons pour nous combien Dieu voudrait être exclusif pour nous. Je reprends une partie de 2 Corinthiens 5, 14, celle où il est dit: afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Je dois penser comme ça. Moi, mort et ressuscité en lui, en vivant spirituellement pour lui, en quelque sorte, je lui rends l'amour reçu. J'aimerais mon Dieu de tout mon cœur et de tout mon être, hein, et j'aime les autres comme moi-même. Ça représente ça. Maintenant, quand on aime l'autre, lui veut-on du mal? Bien sûr que non. Ouais, il y en a un qui a dit si, mais je crois qu'il plaisante. Non, donc, Dieu qui m'aime, il ne me veut que du bien par tous les moyens, sans rien me demander en retour. Et quand on aime, est-ce qu'on s'oppose à celui qu'on aime? Est-on contre lui? Est-ce qu'on garde une rancune s'il y a eu quelque chose? Ou n'est-on plutôt attirer ou inciter à manifester qu'on l'aime malgré ce qu'il a fait, que l'on pardonne. Et ça, Dieu aussi, il veut vraiment, c'est toute son ardeur. S'il dit qu'il nous aime, il nous recommande de pardonner 70 fois, n'est-ce pas? Maintenant, je passe en revue un passage en Romains 5, les versets 5 à 10, et puis je m'arrêterai lorsque il est question de nous, hein, chaque fois. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Comme le Saint-Esprit est amour, quand en nous le donnant, Dieu nous a donné son amour en nous. Donc nous sommes des véhicules portant l'amour en nous. Et verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, moi je comprends, lorsque nous étions encore sans force, avant de naître même, ça m'est arrivé, ou encore aussi longtemps que j'étais un bébé faible, il prouve son amour vers nous. En fait, la suite du verset, c'est Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, alors ça, c'est... Je comprends pécheur là, c'est Pastor Texé nous disait qu'il y a la différence entre le péché et les péchés. Et il dit que le péché, c'est la machine qui fait produire des péchés. Et ici, lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est je comprends que nous, on ne voulait rien savoir de Dieu. On refusait de croire. On était sous l'emprise du péché, pas des péchés. Voilà. Christ est mort pour nous, la fin du verset. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. De quelle colère? La condamnation de Dieu, de l'homme dès la chute. C'est cette colère-là. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alors, lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous étions tous ennemis de Dieu. Et nous avons été réconciliés. Et c'est indispensable que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est pour ça que la suite de 2 Corinthiens 5 nous dit qu'on devient ambassadeur pour supplier les ennemis de se réconcilier avec Dieu, n'est-ce pas? Ce qu'on peut aussi dire sur cet amour, Jésus est évidemment aimé de Dieu sans père. Je pense que c'est dans la prière, on appelle la prière sacerdotale, en Jean 17, verset 24, « Père, je veux que là, où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et verset 26, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Nous savons que, aussi nous l'apprenons à travers la Bible, que Dieu sait qui dira oui à Jésus, et cette personne sera donc une personne élue et forcément aimée avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et plus même, nous faisons partie, je dirais, de la bonne prédestination, parce que avant la fondation du monde, Dieu savait déjà qui irait en enfer, qui ira en enfer, ou qui est allé en enfer, et qui a accepté Jésus et est donc prédestiné. C'est fou quelque part. En 1 Pierre 1, on voit ce sujet-là. Au verset 15, c'est pour dire, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, ça parle évidemment de Jésus, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et le verset 20 parle de Jésus prédestiné, en qui nous sommes en Jésus en fait, avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc ça s'est passé avant la fondation du monde, mais pour nous maintenant, depuis que l'humanité est venue sur terre. Donc ces versets en Éphésiens et 1 Pierre nous révèlent notre passé d'avant notre existence terrestre. L'amour de Dieu a commencé avant que nous n'existions, mais pour Dieu, nous existions déjà. C'est assez fou, hein? Et il y en a qui vont encore naître, qui pour Dieu existaient déjà et qui iront ou en enfer ou au paradis. Et tout en sachant que l'homme méchant était et est capable de faire du mal, Dieu nous a prouvé quand même qu'il nous aime. Et hier, j'ai pensé, c'était super là, quand on a vu l'évangélisation, la dame Nathalie qui était en colère parce qu'elle a perdu un fils. Bien sûr, ça c'est une énorme souffrance, mais Paul lui a dit, même si vous êtes en colère contre Dieu, il vous aime quand même, il vous aime. Ça c'est excellent ça. Ouais. Et il nous a donné ce magnifique livre qu'est la Bible et qui ne nous cache rien de sa pensée, Dieu. C'est phénoménal ça. C'est comme c'est à la fois simple mais tellement profond la Bible de montrer que comme c'est noir le cœur de l'homme et combien d'eux l'aiment quand même, ça c'est phénoménal. Hein. Par amour, il partage tellement de secrets avec ceux qui croient. Il partage les secrets. Et j'ai pensé aussi, comme ça, en me repromenant après avoir rédigé tout ça, que les deux parties de la Bible, comment on appelle ça? Les testaments. Hein? Et je m'imagine que des gens très riches, ils font sûrement tous un testament. Ils font un testament et ils le font en faveur de gens ou de membres qu'ils préfèrent. Hein, ils rédigent ça. Et nous, nous avons le plus riche comme père de l'univers. Et il nous fait un testament. Et nous, d'ailleurs, nous sommes co-héritiers avec notre grand frère Jésus. Ça, c'est formidable, ça. Ouais. Maintenant, est-ce que cet amour de Dieu, est-ce qu'il serait en vain? Il y a un petit oui pour celui qui le refuse. Parce que celui qui le refuse, cet amour, qui ne veut pas croire, c'est le péché, le fameux péché qui condamne définitivement. Mais l'acceptation de son amour, aussi minime soit-elle, cet amour nous place dans un autre registre. Il nous place sous la grâce. Nous ne méritons pas ça, mais nous le recevons. On nous le donne. Et j'ai pensé que le titre du livret que nous donnons à tout premier visiteur est très évocateur pour ça. Laissez Dieu vous aimer. Dieu est intervenu pour faire comprendre à l'homme que son amour est au-dessus de sa justice. Il outrepasse cette punition que nous mériterions. Donc, quelque part, il devient injuste par amour, presque. Mais il est quand même juste. Et il est au-dessus de sa loi. Et il est au-dessus des conséquences de la chute. Son amour, ça inclut pardon, promesse, rachat, salut, réhabilitation, éducation divine, relation, promotion au rang de serviteur de Dieu, co-ouvrier, enfant adopté définitivement que Dieu, il dit, je ne peux pas te renier. Il nous aime, tellement il nous aime. Voilà, j'ai fait... Ouais.
Surtout la dernière phrase, l'amour.
On est adopté.
Rachat, relation, promotion.
Oui. Pardon, promesse, rachat, salut, réhabilitation. Éducation divine, relation, promotion au rang de serviteur, co-ouvrier, enfant adopté que Dieu ne peut pas renier. Voilà. Bon, je m'arrête là parce que j'ai encore des notes, mais je crois que je m'arrête là. Voilà. Amen.